Nous allons nous lever, nous allons lire dans Luc chapitre 4. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Père Céleste, ta parole vient d'être lue. C'est par cette parole que tu as appelé le ciel et la terre à l'existence. Aussi, c'est avec révérence que nous la lisons. Elle nous réjouit le cœur, sachant qu'il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, aux malheureux, sachant que ceux qui sont aveugles ont l'espérance de recouvrer la vue. Oh, nous te remercions encore ce matin pour cette occasion et pour la suite de ce service du culte. Nous te demandons de nous assister en répandant ton Saint-Esprit au milieu de nous, de telle manière que nous soyons dans cette atmosphère et comme les disciples d'Emmaüs, que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous pendant que nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Donc, dimanche passé, nous avons parlé des oints, ceux que Dieu a oints. C'est-à-dire, vous massez avec substance grasse de l'huile, n'est-ce pas? Ou vous frottez de ça, c'est oindre. Et l'Esprit de l'Éternel, n'est-ce pas, est sur une personne ointe. Où Dieu, loin, c'est différent d'être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé, c'est être immergé. C'est ça, baptisé. Oindre, c'est juste comme le matin, quand vous vous êtes lavé, vous vous êtes mis de la pommade, vous vous êtes oint. Alors, mais Dieu ne oint pas avec l'huile ou avec la pommade. Dieu oint avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 10, et le Seigneur le dit, dans Luc 4, on l'a lu. Actes chapitre 10, verset 37, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. » Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Avant que le Saint-Esprit ne soit donné, l'onction se faisait en type dans l'Ancien Testament. L'onction se faisait principalement par un prophète, mais c'est Dieu qui oint. Et il mandatait un prophète pour cela, et le prophète oignait, mais une fois Élisée a envoyé son serviteur pour aller oindre, n'est-ce pas, à un roi. Mais l'ordre est donné par Dieu au prophète. Et cela se faisait donc principalement par un prophète sur ordre divin, et c'est aussi pour cela que le Saint-Esprit était typifié dans l'Ancien Testament par l'huile. Quand on parle d'huile, dans l'Ancien Testament, c'est un type du Saint-Esprit. et l'huile qu'on utilisait pour oindre les sacrificateurs et les rois et les prophètes, ce sont les trois onctions que nous voyons dans l'Ancien Testament, étaient appelées l'huile d'onction sainte. Dans Exode chapitre 30, et le fait de vous oindre montre que vous êtes assigné à une tâche. Et Jésus dit, il a été oint pour accomplir une certaine tâche, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Il a été oint pour ça. Et quand Jean-Baptiste a un peu douté dans sa prison, il a envoyé ses serviteurs, vous verrez cela dans Matthieu 11, on ne va pas le lire. Jésus, lorsqu'on lui a posé la question par les envoyés de Jean-Baptiste, es-tu vraiment, Jean demande si tu es celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre, Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Il est venu pour ça. C'était la tâche que Dieu lui avait assignée. L'huile d'onction sainte, dans Exode 30, verset 25, tu feras, l'ordre est donné à Moïse, l'Éternel parla à Moïse au verset 22, verset 25, tu feras avec cela, tous les ingrédients qui sont 23, 24, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alors, avec cette onction, avec cette huile d'onction, on ne pouvait pas prendre n'importe quelle huile, il fallait cette huile-là. Et personne n'avait le droit d'en faire une de semblable pour un usage privé. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Il n'y a pas que les hommes qui étaient oints. Nous voyons aussi que des objets sont oints. Le temple, la tente d'assignation était ointe. Les ustensiles du temple étaient oints. Et ça devenait, une fois que c'est oint, avec cette huile d'onction, la chose est sainte. Nous savons que Dieu est esprit. Lorsqu'il est descendu sur la montagne a été qualifiée de sainte montagne. Tout ce que le Saint-Esprit touche, ça devient saint. Amen. C'est-à-dire que ça devient prêt pour le service. Ça va ? Il est mis à part pour le service. Pour le service, bien sûr, à la gloire de Dieu. Donc, et si on va plus loin, nous pouvons voir aussi que Aaron et ses fils seront oints, doivent être oints. Donc, verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Les personnes étaient ointes, n'est-ce pas? Les objets aussi, il y avait des objets aussi qui étaient oints. C'était dans un but. Aaron et ses fils étaient oints pour l'exercice du sacerdoce. Et nous savons qu'il y avait trois types d'onction, n'est-ce pas? Les rois, avant d'exercer, étaient oints. Il y avait le sacrificateur qui était oint. Et il y avait les prophètes qui étaient oints. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez personne avec ces trois attributs. Moïse, il était en même temps, il sacrifiait en même temps, et il était prophète, mais Moïse n'a pas été roi. David était roi, c'est tout, il n'était pas sacrificateur, et il était prophète. Ça va ? Ces deux onctions-là. Et il n'y avait pas beaucoup qui avaient deux types d'onction. Mais les plus connus, il y a David, était en même temps prophète et roi. Et Nous avons Moïse qui était en même temps prophète et sacrificateur. Alors, le seul qui a les trois types d'onction en même temps, c'est Christ. Il est roi, le roi des rois, il est prophète, il est le prophète que Moïse a parlé, et il est sacrificateur. Aujourd'hui, il intercède pour vous et moi auprès du Père dans les cieux. C'est, lui, il est le oint. Les autres sont des oints. Ça va? Et vous tous, si vous êtes oint, c'est que vous avez une tâche à faire pour le Seigneur. Quelle tâche? Le Saint-Esprit vous assignera votre tâche. Vous montrera votre tâche. Et nous voyons également, il y a des faux oints. Ça veut dire qu'il y a de véritables, évidemment. Les faux oints, ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Ils font des miracles. Mais ils conduisent les gens dans les mensonges. Et Jésus a dit, il y en aura. Des faux oints. Dans Matthieu 24, verset 24, il met en garde les gens. Il y avait aussi des oints païens. Pas seulement des Israélites, il y avait des oints païens. Si nous prenons Romains 9, pour accomplir le plan de salut de Dieu, Pharaon en était un. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ça va? Et vous dites, oui, mais il a dit, « Je t'ai suscité à dessein. » Ésaïe 45. Nous avons un roi païen que Dieu appelle son oint. Verset 1er. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Il était un roi médo-perse. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations. Ça, c'est la tâche qu'il devait accomplir. Terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Vous pouvez continuer la lecture. Au verset 13, Dieu dit, « C'est moi qui ai suscité Cyrus. » Suscité Pharaon, il a suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent. » dit l'Éternel des armées. Et cette onction, vous savez, elle est spirituellement visible, elle est distincte spirituellement par ceux qui sont spirituels ou par les esprits. Jésus était oint pour accomplir une tâche. Les conducteurs religieux de son temps ne l'ont pas reconnu. Mais ce qui est bizarre, parce que les démons le reconnaissaient très vite. Dans Marc, chapitre 1er, nous voyons que les démons le reconnaissaient. Marc, chapitre 1er, dans plusieurs écritures, on n'en prendra que deux, parce que le temps est avancé. Marc, chapitre 1er, verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ?» Et il dit ceci, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Ce que les conducteurs religieux ne savaient pas, mais ce démon le savait. Dans Marc 9, toute une foule de démons, dans Marc 5, pardon, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, cet homme accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il dit, « En fait, nous sommes nombreux. » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il va les envoyer dans un troupeau de pourceaux. Bref, ils l'ont reconnu. Les chrétiens, ceux qui ont cru en son message, les hommes de foi, l'ont reconnu. N'est-ce pas ? Jésus, au début de son ministère, il faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de gens le suivaient. Des foules le suivaient. Et on voyait quel grand prophète qui est venu parmi nous. Les conducteurs religieux, pour eux, ils ne savaient plus quoi faire. Ils disaient, il est manifeste qu'il fait beaucoup de miracles. Et puis un jour, au lieu de multiplier le pain comme il le faisait, au lieu de relever des paralytiques comme il le faisait, de ressusciter des morts comme il le faisait, un jour, il se lève et il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Or, plein de gens, toute une foule le suivait. Mais il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et il va même plus loin. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, nous sommes dans Jean 6, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Il continue, il dit au verset 47, Jean 6, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ouh. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, pardon, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Le message est devenu compliqué. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang, c'est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Plusieurs, verset 60, plusieurs de ses disciples, c'était des gens qui étaient admis. Un disciple est un étudiant, n'est-ce pas ? Et ils étaient admis, disons ainsi, à l'institution pour étudier. Et Jésus les a acceptés comme disciples. Mais quand c'est devenu ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage, Plusieurs des disciples arrêtent les études à ce niveau-là. Verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, il va encore plus loin, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Beaucoup sont partis. Ça devenait trop compliqué. Ceux qui sont partis, il en reste 12. Jésus se tourne vers les 12, verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il dit ceci, « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Messie, le Oint, le Saint de Dieu. Nous avons reconnu cela. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Dans Matthieu 17, lorsqu'il pose la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Lorsque Pierre lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit, « Ça, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont dit, c'est mon Père dans les cieux. » Autrement dit, il faut avoir cet œil spirituel que Dieu donne pour pouvoir le reconnaître. Et aujourd'hui, Christ est au milieu de nous. Tout le monde ne le voit pas. Mais ceux qui sont destinés à le voir, le voient. Ne les blâmez pas. Il le voit réellement. Pas avec ses yeux-là. C'est avec ses yeux-là. Il dit, parlant des pharisiens, il dit, ce sont des aveugles, conduisant des aveugles. Et encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Celui qui dit qu'il a vu, ne dites pas qu'il est fou. C'est quelqu'un qui a un contact réel avec lui. Et il le voit. Ça va? Et c'est ainsi, quelqu'un qui est loin, a les yeux loin, parce que c'est ce qu'il dit à Laodicée, n'est-ce pas? Non, à l'âge de Laodicée, il dit, Laodicée dit ceci, Apocalypse, chapitre 3. Verset 17. Laodicée dit, « Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, il leur dit, Jésus dit, l'Amen dit, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pas l'or que vous allez prendre dans les mines là-bas, au Congo, non, ce n'est pas cet or-là. De l'or éprouvé par lui, par le feu. » Et il dit ceci, « Et des vêtements blancs. » Ne prenez pas votre ceinture de feuilles de figuier que votre couturier vous a cousue. Avec ça, ça ne vous protège pas devant Dieu. Quand Adam et Ève ont essayé leur ceinture de feuilles de figuier, Adam a regardé, a dit « ça va, c'est correct ». Ève a regardé, elle a dit à Adam « oui, c'est bon, c'est correct ». Mais quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. « Adam, où es-tu ? » ?»« Je suis dans les buissons, je me suis caché parce que je suis nu. » »« Qui t'a appris que tu es nu ?» Et c'est le cas de Laodicée. Laodicée croit qu'il est bien habillé, qu'elle est bien habillée. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et le Seigneur dit, « Je te conseille d'acheter des vêtements blancs. » la justice des saints. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux. Il faut avoir des yeux oints. Afin que tu voyes. Si les yeux ne sont pas oints, vous ne verrez rien. Spirituellement parlant. Aie donc du zèle et repens-toi. Pas seulement le Seigneur. Vous de même, moi de même, les chrétiens, les croyants se reconnaissent entre eux. Et Jésus nous a donné un moyen de reconnaître. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vient Bible en main à l'assemblée. Un chrétien fait ça. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un qui assiste au culte régulièrement, c'est peut-être un chrétien, peut-être il ne l'est pas. Mais un chrétien assiste au culte. Mais celui qui assiste au culte n'est pas nécessairement un chrétien. Et vous savez, quand Moïse restait longtemps en présence de Dieu, quand il descendait de la montagne, Israël tout entier voyait qu'effectivement, il était en présence de Dieu. Pourquoi ? Il y avait comme une lumière, la gloire de Dieu qui se reflétait sur son visage. Lui-même, Moïse, ne le savait pas, mais c'est Israël qui voyait ça. Et Dieu, ayant accompagné Israël tout au long du voyage jusqu'en terre promise, quand ils arrivent près de la terre promise, ils arrivent au bord de Jéricho. Les deux espions qui sont allés voir comment se trouvait Jéricho, lorsque Rahab, la prostituée, les a accueillis, Rahab leur a dit, il leur a dit, nous sommes effrayés par votre aspect. Alors que eux-mêmes, quand ils étaient arrivés tout à fait au début à Kadesh Barnéa, ils avaient plutôt peur des géants qui étaient là. Mais ce sont ces mêmes géants-là qui avaient peur à l'aspect des enfants d'Israël. Et les démons, quand ils voient un vrai chrétien, ils en ont peur. Un chrétien rempli de foi. Et parfois, quand vous voyez quelqu'un qui se dit adorateur et qui a peur des démons, il y a quelque chose qui ne va pas avec sa foi. Amen. Un chrétien véritable n'a pas peur des démons. Ce sont les démons qui ont peur de lui. Yes. Un chrétien véritable n'a pas peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui ont peur de lui. Yes. Moi, je n'ai pas de problème. Je leur ouvre la porte grande. Ils peuvent entrer. Je vais leur parler de Christ. Et ils jetteront leur sorcellerie. C'est moi qui vous le dis.
Amen.
En tant que oint du Seigneur, vous devez savoir ce qui est à vous.
Amen.
Vous devez savoir ce qui vous appartient. Un chrétien n'a pas peur de la mort.
Non.
C'est la mort qui a peur de lui.
Amen.
Parce qu'il sait, elle sait que Jésus, quand il va le rappeler,
amen,
la mort devra céder.
Yes.
Vous voyez? C'est le privilège du chrétien.
Amen.
David dit, je ne craindrai aucun mal.
Amen.
Même dans le séjour des morts.
Amen.
Alors, Paul, un oint de l'Éternel, avec Silas, je crois, pendant qu'ils étaient, acte 16. Il y avait une femme, justement, une sorcière. Ah. esprit de Python. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. C'est Luc qui écrit. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez qu'ils savent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. L'onction, c'est comme un uniforme. Vous pouvez paraître faible comme une plante. Vous pouvez être méprisable, méprisé et abandonné des gens. Vous pouvez être celui pareil à celui dont on détourne le regard, qu'on ne veut pas regarder, mais malgré tout, vous avez une force que le monde ne connaît pas. Le bras de l'Éternel qui est venu, qui a été annoncé et qui est apparu comme une faible plante, eh bien, ce bras a porté nos souffrances. Ce bras s'est chargé de nos douleurs. Ce bras a été meurtri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce bras a supporté tout cela. Quelqu'un qui semblait aussi faible, mais il a pu supporter tous les malheurs des chrétiens. Il a été châtié pour nous, à notre place. Il a pris notre place. Or, quand on l'amenait là-bas, sur la montagne, à Golgotha, tout semblait être perdu. Les démons se disaient, maintenant nous l'avons. Mais en fait, il est monté jusque là-bas pour que nous ayons la vie. Vous savez, quand il prêchait en parabole. Les disciples lui disent, mais pourquoi tu prêches en parabole? Vous pouvez lire ça dans Matthieu 13. Il dit, parce que si je ne prêche pas en parabole, ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, ils vont se repentir et ils vont accepter le message. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'ils acceptent? Mais s'il n'y avait pas ça, on ne l'aurait pas mis à mort. Il fallait qu'il meure. Si les Juifs avaient cru directement, on ne l'aurait pas mis à mort. Et il a dit, et d'ailleurs, quand il faisait des miracles, parfois il disait, ne le dites à personne. Mais il leur a dit, ne le dites pas jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Aujourd'hui qu'il est ressuscité, nous pouvons le dire, que c'était réellement lui. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont difficile à croire en la résurrection. Il y a beaucoup de gens qui ont difficile à croire en ces choses, mais nous, nous y croyons. Et parce que nous y croyons, eh bien, il y a des choses qui nous permettent de voir. Il dit ceci, c'est à vous. Il dit aux disciples, c'est à vous que cela a été destiné. Écrit dans Actes des Apôtres, il dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle recevaient la parole. Ceux qui n'étaient pas destinés, ben bon. Chacun a son destin. C'est comme un uniforme. Un policier, comme on dit toujours, il reçoit un pouvoir. Tout comme un oint, il reçoit un pouvoir. Vous avez le droit, un pouvoir de prier pour les malades. De chasser les démons. Vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez ne pas être costaud. Vous pouvez ne pas avoir de dons. Mais si vous êtes loin, vous pouvez combattre les démons. Ça va? Et lorsque un policier, on lui donne son uniforme, on lui donne sa moto, c'est une petite machine, la moto, par rapport à un énorme camion d'une centaine de tonnes, n'est-ce pas? Mais le policier, avec sa moto, si le chauffeur du camion a envie de faire de l'excès de vitesse sur l'autoroute à du 180 à l'heure ou du 200 à l'heure, si ça existe des camions, le policier avec sa moto va le dépasser et il va lui faire signe « arrête-toi là ». Et le camion, d'ailleurs, avant même que le policier ne lui fasse signe, le conducteur, derrière son volant, dès qu'il va voir sur son rétroviseur, dans son rétroviseur, voit une moto de police arriver, il va lui-même freiner rien qu'en voyant le policier. Yes. Alors, ce policier malingre que vous voyez, il va lui faire signe, ah, tu t'arrêtes là. Ou bien il lui fait signe, tu me suis. Et il va quelque part, il dit, suis-moi. Et il s'arrête. Descendez, il descend. Il a l'autorité. Il n'est pas nécessairement plus fort que le conducteur. Ces routiers-là, ce sont des gens bien musclés, souvent. Mais le policier, peut-être pas. D'ailleurs, vous avez vu ces images, il y a 2 ans, avant ce corona, les gilets jaunes. Cet ancien boxeur qui s'est acharné sur un policier pendant une manifestation. Il peut être plus fort. Il s'est acharné sur le policier, il a appliqué sa boxe sur le policier. Il a fini en prison. Il ne peut pas. Un policier en service, tu ne peux pas. Il a même été renié par sa corporation de boxeurs. On a invalidé sa licence de boxeur. Et c'est pareil. Les démons, ils peuvent vous montrer plein de choses, mais vous avez le pouvoir de dire aux démons, sors, va à tel endroit, et il ira. Si c'est dans les pourceaux, il doit y aller. Par quelle autorité tu fais ça? Je fais ça au nom de Jésus-Christ. Donc, elle vous donne l'autorité pour accomplir la tâche. Parce que s'il vous dit d'accomplir telle tâche, il vous donne une autorité pour cela. Il ne vous laisse pas aller les mains vides ou complètement désarmées. Et les armes du chrétien nous sont données dans le livre d'Éphésiens. On les a souvent lues. Maintenant, ces oints sont sacrés. Et ces oints ont du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Ça va? Ils ont du prix aux yeux de l'Éternel. Dans les psaumes 105, nous lisons ceci. Psaume 105, verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi. N'oubliez pas, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Donc à cause d'Abraham, à cause d'Isaac et de Jacob, il a châtié des rois. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça va? C'est le titre ce matin. Ne touchez pas à mes oints. Qu'ils gaffent ou qu'ils ne gaffent pas, ne les touchez pas. Vous n'avez pas le droit de les toucher. L'Éternel a oint Saül, roi. Samuel est allé le oindre sur ordre divin. Saül a été oint roi en Israël. Saül va gaffer. Quelque temps plus tard. Dans 1 Samuel 13, Samuel vient lui dire que tu as gaffé. Et il va le reconnaître, il a gaffé. Samuel 13. C'est dire la protection qu'on l'éloigne. Samuel dit, verset 11, « Qu'as-tu fait, Saül ?»« Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Tu ne peux pas. Tu n'es pas lévite. Tu n'es pas sacrificateur. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu va le rejeter. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 15. Maintenant, le fait que Dieu le rejette ne lui enlève pas le fait qu'il est loin. N'osez surtout pas de porter la main sur Saül. Ça va? Que vous ayez gaffé, que vous n'ayez pas gaffé, vous êtes, il vous a oint, vous êtes son oint. Pharaon, qui a été suscité de ça, il ne pouvait pas mourir avant. Il ne pouvait pas tuer Pharaon avant qu'Israël ne parte. Dieu lui-même s'en charge. Cyrus, également. Il nous a dit dans Daniel, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de vouloir un départ anticipé ou un départ retardé. Tout se fait selon la chronologie du Dieu vivant. Et s'il vous accorde un supplément de temps, il le savait déjà avant la fondation du monde, qu'il vous accorderait un supplément de temps. Il n'est pas surpris. Il n'est surpris par rien du tout. Il est le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Donc Dieu rejette Saül. Alors, et Dieu a pris David. David a été oint roi. David étant oint roi, après l'onction, dans 1 Samuel 16, David va rentrer derrière ses troupeaux, pour les garder. Entre-temps, Saül va livrer bataille, plusieurs batailles, il en gagnera certaines, mais il arrive devant les Philistins. Dans le camp des Philistins, il y a un certain Goliath. Et Goliath faisait trembler tout Israël. Personne n'a osé affronter Goliath. David, Dieu s'arrange pour que David y aille. Et Dieu s'arrange pour que David arrive juste au moment où Goliath est en train de se vanter. Donnez-moi un homme. Si je le bats, vous serez nos esclaves. Si lui me bat, nous serons vos esclaves. David s'est avancé. Nous connaissons la suite. Alors, quand David tue Goliath, qu'est-ce qui se passe? Israël commence à chanter. Saül en a battu 1000. David en a battu 10 000. Saül se fâche. Et il dit, tiens, à lui on donne 10 000, à moi on ne donne que 1000. Et par jalousie, Saül veut tuer David. Et David fuit. Il va commencer à regarder David d'un mauvais œil. 1 Samuel 18, verset 5. David allait réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et en poursuivant David, il va tomber lui-même dans son propre piège, Saül, si je peux dire ainsi, dans son propre jeu. Il va s'endormir dans une caverne à la merci de David. Alors qu'il en voulait à la vie de David, serviteur de David vient dire à David, « Écoute, maintenant, nous l'avons, tu peux le tuer. » Alors, maintenant, il dit ceci dans 1 Samuel 24. Je crois qu'on vous appelle là-bas. Hein? Alors, dans 1 Samuel 24, il dit ceci. Au verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. C'était un oint de l'Éternel. Le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il ne pouvait pas toucher Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Dieu ne veut pas qu'on touche à ses rois. Dieu ne veut pas qu'on touche à vous. Il ne veut pas que vous soyez malade. C'est pour cela qu'il a envoyé Christ. Il ne veut pas que nous mourions. C'est pour cela qu'il a envoyé Christ. Il nous donne la vie éternelle. Et plus tard, quelqu'un va penser rendre service à David en tuant Saül. 2 Samuel, chapitre 1er. Et il va venir le dire tout fièrement à David, que, écoute, ne t'affole plus, hein, je l'ai eu. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » En plus. David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Ce n'était pas un oint. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête car ta bouche a déposé contre toi puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à l'oint de l'Éternel. » Dieu ne veut pas qu'on touche à ses oints. Et si, selon 2 Corinthiens, chapitre 1er, nous avons lu cela la fois passée, verset 18, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Donc, en Christ, les promesses ne sont que oui. Pas peut-être quand vous êtes en Christ. C'est pourquoi c'est un don, c'est une promesse divine. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Et on entre en Christ comment ? Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, que faut-il faire ? Puisque c'est une promesse, demandez à Dieu d'accomplir sa promesse en vous. Et s'il accomplit cette promesse en vous, eh bien, tous vos problèmes sont résolus. Vous n'aurez plus peur de rien. Un médecin peut vous annoncer telle ou telle chose, si vous êtes en Christ, vous n'avez peur de rien. Je ne dis pas que vous ne mourrez pas, mais vous n'en avez pas peur. Vous êtes en sécurité. Quand vous êtes baptisé en Christ, baptisé par l'esprit, dans l'esprit, eh bien, baptisé d'esprit, vous êtes immergé, vous n'en sortez pas. Mais quand vous êtes loin, l'esprit peut se retirer. Mais quand vous êtes dedans, là, vous ne savez plus en sortir. Vous êtes scellé. Et là-dedans, en Christ, vous avez tout. Vous avez la résurrection. Vous avez la guérison. Vous avez la délivrance. Vous avez la consolation. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et ceux qui sont en Christ, l'apôtre peut leur dire, quoi qu'il arrive, avançons-nous joyeux. Toujours joyeux. Et quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alors, il dit ceci, en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pas certaines promesses, non, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça va ? Donc, tel que vous êtes là, lorsque Dieu donne l'ordre, parce que nous ayant oint, lorsqu'il donne l'ordre, ne touchez pas à mes oints, vous êtes de ceux-là. Dieu ne veut pas qu'on vous touche. Satan a tenu une femme prisonnière pendant 13 ans, une fille d'Abraham. La tenue courbée pendant 13 ans, Jésus est allé à la synagogue et lui a dit, « Femme, lève-toi. » Elle s'est levée, elle a marché, le sacrificateur est venu, on ne peut pas faire ça. Le jour du sabbat, elle a dit, « Oh !» Satan l'a retenue pendant 13 ans, cette fille d'Abraham. Elle a droit à la guérison. Un autre a été malade dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Le Seigneur est allé le délivrer. Vous avez peut-être été en prison pendant un certain nombre d'années. Si vous êtes là, il vous en a délivré. Vous avez subi des choses qui auraient pu vous dégoûter de la vie. Mais vous êtes toujours là à le louer. Ouais. Ça, c'est incompréhensible. Il faut être en Christ. Sinon, on se révolte. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça n'arrive pas? Vous savez, quand vous êtes en Christ, Dieu vous parle. Et il vous explique le tout. Le Seigneur va même jusqu'à pleurer sur Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem a tué les prophètes. Matthieu 23. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, ce sont des oins, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Regardez la condition de Jérusalem aujourd'hui pour avoir tué les prophètes. Regardez la condition d'Israël aujourd'hui pour avoir rejeté le Messie. Regardez la condition de ceux qui rejettent le Seigneur aujourd'hui. Leur condition est tout simplement pitoyable. Nous voyons ce que le monde devient aujourd'hui. Et les exemples sont nombreux. Quand il dit « ne touchez pas à mes oins », c'est valable pour les objets également. Les Romains ont osé détruire le temple. Un jugement terrible est réservé à Rome. Déjà, Rome a été divisée, n'est-ce pas ? Empire romain d'Occident, Empire romain d'Orient, n'est-ce pas ? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Et maintenant, l'Empire romain est en train de se reconstituer. Apocalypse 18 nous dit qu'elle va mal finir. Rome va mal finir. La Babylone va mal finir. Le frère m'a envoyé une vidéo où les Russes sont en train de montrer leur nouvelle arme, leur nouveau missile, où les Américains ne peuvent rien contre ce missile-là. Pourquoi ? Pour avoir rejeté loin de l'Éternel, pour avoir détruit le temple. Avec l'apostasie qui s'installe, pour avoir détruit les enfants, les fils et les filles de Dieu. On leur a enlevé la parole pour leur donner du n'importe quoi. Nous avons présenté des fiançailles là, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des fiançailles que l'homme a inventées. Et l'homme veut que nous appelions cela des fiançailles. Non, appelez ça autrement. Moi, j'aime bien quand ils disent eux-mêmes, non, ce n'est pas mon mari, c'est mon compagnon. C'est bien. Et quand je dis, on dit que ce n'est pas mon mari, c'est mon compagnon, ce n'est pas une femme qui dit ça, hein? C'est un homme qui dit ça. Un homme parle d'un autre homme, il dit, il n'est pas mon mari, c'est mon compagnon. Et ils appellent ça, pour certains, mariage. Ouais. Pour les objets, ne touchez pas à ces oies. Daniel chapitre 5. Nous sommes en plein Babylone, où ils vont oser plein de choses. Le roi Belshazzar donna un grand festin. C'est son droit. Vous pouvez festoyer, mais faites attention. Un festin assez grand, au nombre de 1000. et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Il y a une chose d'incompréhensible ici. Il devait certainement avoir, c'est moi qui dis ça, des vases et des coupes certainement plus beaux que ceux du temple, mais je ne sais pas ce qui le pousse absolument à avoir ceux du temple. C'est quelque chose d'incompréhensible. Il ne va pas me dire que, avec toutes les conquêtes qu'il a faites, il n'avait pas domination sur des pays producteurs d'or. Certainement, il y en avait. Certainement, il avait des orfèvres chez lui pour lui faire des vases et des assiettes, toutes sortes de ces choses, en or s'il voulait, ou en argent, ou en diamant, comme il voulait, il pouvait en faire. Mais non, lui voulait les ustensiles loin du temple. C'est quand même incroyable. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Ils ne s'arrêtent pas là. Et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ils avaient tout. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur. Ah, c'est peut-être le vin. Et ses pensées le troublèrent. Les joints de ses reins se relâchèrent. Oh, dites aux servantes d'amener la serpillière. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. » Ça veut dire les habits royaux. Ça veut dire que celui qui va lire, il va lui refiler la patate chaude. Quiconque donc portera un collier à son cou et aura un troisième, et aura la troisième place, donc puisque la première, la deuxième, c'est pour lui, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Ne touchez pas à ces rois. Les choses saintes du temple, n'y touchez pas. C'est à lui. Et quand Dieu a oint quelqu'un pour faire une tâche, c'est cette tâche-là. Et pas une autre. Ah, je peux aussi faire ce que fait mon frère Hubert. Non, non. Non, non, non. Le frère Hubert fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Si vous a demandé d'être un adorateur, une adorateur en esprit en vérité, soyez adorateur en esprit en vérité. et Dieu vous bénira. S'il vous a demandé de prêcher, prêchez. Surtout, ne dites pas à quelqu'un, viens le faire à ma place. Il vous donne du boulot et il vous dit, faites-le, vous allez appeler quelqu'un d'autre, viens le faire avec moi. Il dit à Moïse, conduis mon peuple, tu es loin pour ça. Conduis-le à travers le désert jusqu'en terre promise. Moïse, il tourne, il va chez le beau-frère. Toi, tu connais bien le désert. Conduis-nous. Oui, c'est la chose à ne pas faire. Chacun doit occuper sa place. Et Dieu est très jaloux de ses oins. Tout ce qu'on fera à ses saints, il y aura un jour terrible, un jour de vengeance, comme il le dit. Et il le dit dans Ésaïe 35, la vengeance est à moi. Tout ce qu'on a fait subir à ses oins, lui-même les vengera. Amen. Ce qui a été oint doit être aussi considéré comme étant saint. Et si le lieu est saint, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les souliers. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Si cet endroit a été destiné pour l'adoration, considérez-le comme tel, comme étant un endroit destiné à l'adoration. Ne faites pas des activités annexes. Ce n'est pas pour ça. Ici, c'est pour rendre un culte à Dieu. Si nous célébrons un mariage ici, nous allons rendre un culte, le culte ici, si nous devons le faire ici. Mais après le culte, pas question de faire la soirée dansante ici. Ça va? Ah, mais vous aussi, vous exagérez. Nous exagérons. J'aime bien exagérer. La soirée dansante, pas ici. Cherchez un endroit destiné à cela. Amen. Ici, c'est un lieu de prière et de louange. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour l'onction que tu as appliquée sur chacun de nous. Puisse ce collier que tu nous proposes d'acheter gratuitement auprès de toi, puissions-nous avoir ce collier loin de nos yeux afin que nous puissions voir quelle est la tâche qui nous incombe. Quelle est la tâche que nous sommes appelés à accomplir. Veuille nous assister en toutes choses, de telle manière que le témoignage de Jésus-Christ puisse aller par le monde entier. Que l'on reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu manifesté dans la chair et qu'il a été au milieu de nous et qu'aujourd'hui, il est dans le lieu très saint, intercédant pour chacun d'entre nous. Il est celui qui est sorti en tant qu'agneau tout ensanglanté du trône pour prendre le livre pour l'ouvrir, ouvrir les sceaux, le livre de la rédemption, où se trouve le nom de tous les rachetés. Et nous savons que ces rachetés ont du prix à ses yeux. Et aucun de ceux qu'il a rachetés n'a été perdu. Nous te remercions pour tout cela, pour nous avoir montré ces choses et pour nous avoir donné l'occasion en ce jour de t'adorer. Pour nous avoir permis en ce jour de nous rassembler en ton nom, sachant que tu es au milieu de nous. Nous nous attendons à toi pour les jours à venir, si tu tardes. Nous, nos yeux sont tournés vers toi. Nous attendons le cri qui retentira. Voici l'époux à sa rencontre. Oh, afin que, en un clin d'œil, après avoir vu nos bien-aimés ressuscités, en un clin d'œil, nous puissions tous venir à ta rencontre. Nous te bénissons, nous te louons. Merci encore pour les prières qui t'ont été adressées. Nous ayant oint, nous croyons également que le baptême du Saint-Esprit promis, tu nous l'as accordé. Aussi les promesses que tu nous as faites, nous réalisons aujourd'hui combien nous en avons besoin, parce que nous avons des malades, nous avons des infirmes. Nous ne cesserons jamais de te les demander, parce que nous savons que toi, tu peux tout. Là où l'homme s'est arrêté, toi, tu peux aller plus loin. Là où la mort arrête Satan, arrête les actions de Satan sur nous, toi, au-delà de la mort, tu peux encore nous rechercher. Combien tu es bon, combien tu es grand. Bénis tes enfants, Seigneur. Alors que nous terminons la réunion de ce jour, te demandons de raccompagner chacun chez soi. Que chacun aille en paix chez soi. Pendant que le monde s'agite, que ta paix soit sur chacun d'entre nous. C'est ainsi que nous l'exprimons chaque fois que nous nous disons bonjour. Shalom. Te bénissons, te louons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. L'ordre est donné, n'est-ce pas? Qu'on ne touche pas à ces oints. Si vous êtes un oint de l'Éternel, réjouissez-vous. Le Seigneur bénisse.